Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot, c'est mardi, c'est Champions, c'est chaud, c'est le retour de la reine des compétitions de clubs, cette Ligue des Champions que le monde envie à l'Europe. 67e édition, plus que 3 avant la réforme, profitons-en. Présentons-la. Il se dit que le PSG, logiquement, en est favori devant le Bayern, Chelsea et City. Naïm Meunier, bonjour. D'accord avec cet on dit ?
Non, je suis pas d'accord, mais bon, comme c'est l'équipe qui le dit.
Vous allez pouvoir donc les contredire.
Ah bah eux, surtout si c'est l'équipe. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Elle commence donc ce soir, 8 matchs au programme, 2 débutent dans quelques minutes. Young Boys, Berne, Manchester United et Séville, Salzbourg, les 6 autres à 19h, temps universel, notamment Lille, Wolfsburg, Chelsea, Zenit Saint-Pétersbourg, Malmö Juventus et le choc Barça-Bayern. Déjà 2 clubs allemands sur le pré, donc forcément David, l'hortelarie est prêt. Bonjour monsieur.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Mais rien ne nous empêchera de dire un mot aussi, pourquoi pas, de Villarreal Atalanta ou de Dynamo de Kiev Benfica. Après cette longue page consacrée à la C1, à l'hymne aussi pompeux qu'entêtant, nous parlerons hymne. Justement, c'est le pataquès du moment, une polémique qui agite le bocal parisien. Le PSG a troqué Phil Collins pour DJ Snake. C'est qui ? Enfin bref, afin d'accompagner l'entrée des joueurs au parc, c'est une question de génération. Et c'est loin de plaire à tout le monde, en particulier aux supporters parisiens qui y voient une nouvelle attaque des dirigeants qatariens à l'histoire du club. Quand le culte du marketing l'emporte sur le respect de l'histoire et la mémoire des 10 supporters, pas si anecdotique que cela, Philippe Doucet, ou bien si ?
Si quand même pas mal, hein. Pas mal.
Oui, hein.
Je crois qu'il y a d'autres symboles plus importants pour l'identité d'un club que l'hymne au moment où les équipes rentrent.
Ce sera la fin de l'émission. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. David Finzel est à l'écoute, tapis dans l'ombre. Laurent Salerno est à la console, prêt à envoyer le tapis.
Il a mis sa frappe et c'est l'ouverture du score.
Si, senior.
Yanagai qui va pouvoir frapper.
Oh, il a le but !
Alors, le but ! Le but ! Le but du FC Barcelone !
2 minutes de jeu seulement.
Le ballon est passé sous le ventre de Keylor Navas.
Oh là 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 là.
Pas sûr qu'elle était cadrée.
Et là, le but ! Le but d'Antoine Griezmann !
Le but de Kylian Mbappé !
Et le voilà, le but parisien, le but de l'espoir pour le Paris Saint-Germain.
Nous y sommes, messieurs, la 67e Coupe des clubs champions devenue Ligue des champions s'élance donc ce soir, profitons-en. Dans 3 ans, pour la saison 2024-2025, on le rappelle, la compétition changera de braquet. Elle passera à 36 équipes et à une phase de groupe qui garantira 10 matchs de championnat à tous. On aura l'occasion de reparler de ce football un peu plus circus, saison après saison. Donc cette saison, on le dit, on l'a dit, certains l'espèrent, y croient dur comme fer, le PSG est favori. Et Naïm Meunier, lui, n'est pas d'accord.
Non, je suis pas d'accord, parce que ça fait 4, 5 ans, 6 ans maintenant où j'entends que le PSG est favori parce qu'il a recruté X joueurs ou Y gardiens, puis au final, il la gagne jamais. Chelsea n'était pas favori, il l'a gagné. Si on prend sur les années précédentes, est-ce que le Real était fait pour l'avoir 3 fois de suite de cette manière-là ? Non, pourtant il l'a fait, donc non, Paris n'est pas favori pour moi.
C'est le jeu hein, de désigner, bien sûr, chaque année, des favoris. Alors forcément, comme il y a Messi, bah, Paris l'est. Philippe, je vous vois dubitatif aussi.
Oui, parce que les favoris de septembre n'ont pas beaucoup de valeur par rapport aux favoris de février. Je crois qu'en février, on a une petite idée, mais encore, Naïm a raison, ni l'année dernière, ni même l'année d'avant, où le Bayern n'avait pas été si impressionnant que ça dans la phase aller, dans la première partie. Donc franchement, ça vaut pas grand-chose les favoris du mois de septembre. Ce qui est sûr, c'est que on sait qu'il y a 4-5 clubs qui ont beaucoup d'argent et ces 4-5 clubs ont donc des grosses équipes et ont maintenu des grosses équipes. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et, bon bah parmi ces 4-5, il y a des chances qu'il y ait le vainqueur parce que malheureusement, il n'y a plus 10 clubs qui ont de l'argent dans cette Europe. C'est fini, il y en a plus que 5.
Avant de passer à l'avis de David Lortolari, merci Monsieur Salerno d'avoir stoppé cette musique entêtante, comme je le disais. Votre avis donc, David.
Bah deux éléments peut-être pour équilibrer un peu tout ça. Alors il y a de mon point de vue tout de même si le tenant gagne quasiment jamais l'année suivante. C'est arrivé au Real, mais c'est à peu près tout.
C'est tout. Ouais.
Il y avait
le Milan,
depuis Milan 1990,
89, hein. 90, 80. Oui,
il y a 30
ça.
Ans, 31 ans.
Néanmoins, je crois que tout de même, objectivement, le Chelsea de vainqueur il y a quelques mois est toujours le même, avec un renfort Lukaku, donc ça en fait peut-être quand même un des favoris légitimes. Et puis concernant le Paris Saint-Germain, eh bien, je crois quand même qu'il ajoute chaque année, chaque saison, ou presque, un ingrédient supplémentaire pour se rapprocher au moins de ce trophée-là. Naïm évoquait les gardiens. Effectivement, le fait de venir Navas n'a pas permis de gagner la compétition à court terme. Le fait de faire venir maintenant Messi, c'est forcément un plus. Mais vous le savez très bien, dans les recettes de cuisine, quand on ajoute les ingrédients les uns sur les autres, parfois,
si on part du principe que le problème du PSG, c'est qu'il n'arrive pas à faire cohabiter ses grandes individualités avec une grande individualité en plus, ça ne marchera pas forcément.
Alors, les favoris bis, d'après les amis de Naïm Moniol, de l'équipe, donc Chelsea, le tenant, on vient d'en parler, le Bayern, toujours, et là, c'est un exemple, le Bayern, on change rarement une équipe qui gagne, ou en tout cas qui est toujours sur le point de gagner. Enfin, ils l'ont remporté en 2020, c'était il n'y a pas si longtemps, ils sont toujours dans le dernier carré. Et puis, on cite aussi Manchester United, parce qu'il est revenu. On en dira un mot aussi peut-être tout à l'heure.
Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce qu'il a été bon ce week-end encore.
On en a parlé hier. Mais oui. On va en dire un mot si vous voulez tout à l'heure. Mais encore que c'est un match qui démarre dans 30 minutes. Donc c'est vrai que ce sera peut-être un peu tapé. En tout cas, voilà. Si on cite ces quatre-là quand même, on a une belle brochette. Ce qui n'exclut jamais une surprise.
Mais vous avez oublié City, mais sinon oui, c'est ça. Oui. C'est les cinq. Oui, oui. Bah, c'est les cinq clubs qui ont de l'argent aujourd'hui. Bah,
disons
donc
que
c'est pas très très compliqué. En ce moment, c'est très économique.
Donc c'est vraiment une histoire d'argent.
Ah ben bah, oui, oui.
Donc
oui,
généralement, la Ligue des Champions l'a toujours été, sauf que jusqu'ici, il y avait 10 clubs qui avaient trop d'argent, parce qu'à mon sens, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que ça fait trop d'écart par rapport aux autres. Mais parmi 10, il y a une certaine incertitude. 10, ça fait déjà mal.
Oui.
Pour désigner des favoris,
il y a 10.
Oui, voilà, il y avait Juve, Barcelone, il y avait tous ces clubs-là où on se disait c'est possible, etc. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus que 5. Bah, bon, voilà, ça, c'est quand même
aujourd'hui,
le Covid a fait mal au football aussi.
Généralement, pour désigner les favoris, tu prends les premiers des gros championnats. Sauf que la Juve est certainement pas en mesure de gagner la Ligue des Champions aujourd'hui.
On va en parler aussi.
Le Barça non plus. Donc ça veut dire que le Real, point d'interrogation, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Moi, j'y crois pas tellement. Donc ça veut dire qu'en gros, t'as le Bayern qui a très peu changé, comme Philippe l'a dit. T'as les trois Anglais.
Il y a forcément de l'argent, mais il y a jamais de gros. Enfin voilà, c'est pas parvenu, c'est pas nouveau riche, ça claque pas quoi.
Non mais il y a un peu de changement cette
saison. Bayern.
Oui.
Non mais le Bayern, c'est un club qui a pas fait de déficit. Enfin peut-être l'année dernière à cause du Covid, mais sinon il n'en avait pas fait depuis 1986.
C'est la gestion à la papa.
Non mais c'est un vrai club de foot. Voilà, oui. C'est tout. Le reste c'est artificiel. Là on a que des clubs artificiels.
Suffit d'aller d'ailleurs à l'Allianz Arena pour se rendre compte que c'est un vrai club de foot.
Oui, bah bien sûr. C'est le vrai club.
Il y aurait peut-être deux troubles faits possibles qui seraient en Espagne, qui seraient peut-être l'Atlético et Séville, qui peuvent sur une demi-saison.
Séville oublie tout de suite.
Non,
et puis
pas pour gagner.
Oui, pourquoi pas l'Atlético?
Pour animer, mais pas pour gagner, non.
Bah, après, ils vont quand même suffisamment assez souvent en demi-finale ou en finale pour pouvoir un jour et penser éventuellement la gagner. Le problème pour ça, c'est que l'Atlético, en fait, soit il fait un très bon championnat et il sort rapidement de la coupe, soit il fait un gros parcours de coupe et puis il fait 3-4 en championnat et il est ric-rac sur la fin en se disant est-ce qu'il va être dans les 4 machins. Ils ont recruté Griezmann, c'est un atout de poids supplémentaire et c'est pas avec la situation du secteur offensif de Barcelone qu'on va dire le contraire. Maintenant, il faut être bon 10 mois. Je suis pas sûr qu'avec le jeu que propose Simeone, ce qu'il faut finalement, c'est pas un effectif très large. En plus, l'Atlético, en tout cas, il utilise souvent les mêmes. Est-ce que tu peux être 10 mois à fond sur le championnat et à fond sur la Ligue des Champions suffisamment pour aller en finale et la gagner? Moi, je suis pas sûr. Je crois pas que l'effectif soit assez large, en fait.
On a essayé de trouver quelques possibles qui rentreraient par la porte de derrière.
À un moment donné, les gens qui nous écoutent sont pas idiots. Ils connaissent le foot. C'est qu'on va pas leur vendre des chimères et leur dire qu'il y a 15 favoris s'il y en a que 3, quoi, tu vois.
En général, ils ont un avis bien arrêté quand même.
Oui, c'est justement.
Non, s'il faut chercher des outsiders, quand même, Liverpool peut faire partie. C'est un peu plus qu'un outsider. Oui, après, ça fait 6, quoi.
Manchester United. Alors, tout n'a pas été extraordinaire ce week-end. Moi, je suis très content.
4 anglais, PSG, Bayern terminé.
Voilà, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est en gros, est-ce que United, avec l'arrivée de Ronaldo, redevient un concurrent sérieux? On sait que sans Ronaldo, ça peut sortir des poules et flirtouiller avec 8e quart. Est-ce qu'avec un Ronaldo mieux servi qu'il ne l'a été ce week-end, mais ça se travaille avec le temps, est-ce que ça peut faire demi et finale? Tu vois, c'est peut-être un challenge comme ça. Est-ce que United peut redevenir une bonne équipe qui peut gagner la Ligue des Champions?
Paris peut être demi-finaliste chaque saison, à minima de cette. Voilà, sur les questions.
Ça
sur les questions
mal,
traditionnelles
pas mal
de ce
pour
début
le français.
Ils sont armés.
De campagne. Allez, au programme ce soir. Donc, commençons par le club français en lice du jour, en attendant demain le Paris Saint-Germain à Bruges. Lille, donc champion de France, reçoit Wolfsburg. Je sais pas pourquoi j'avais mis Salzbourg, c'est parce que j'aime bien cette ville, mais c'est bien Wolfsburg.
Lille aussi dans la compétition.
Un champion en souffrance.
Vous ne trompez pas quand vous partez en vacances.
Ouais.
Allez plutôt à Salzbourg qu'à Wolfsburg.
C'est quand même vachement
mieux. Je vous recommande d'aller à Salzbourg.
Je me souviens d'une demi-finale de Ligue Europa il y a quelques saisons avec Marseille, et c'est une fort fort jolie ville, effectivement. La ville de Mozart, hein, d'abord.
Oui,
un champion donc Lille en souffrance face à une formation allemande en tête de la Bundesliga. Alors avant d'aller à Lille retrouver Eric Mamrut qui suivra ce match ce soir sur RFI au cours d'une nouvelle soirée spéciale animée par Antoine Grenier en compagnie de Cédric De Oliveira pour les réseaux sociaux. Et d'un certain Naïm Magnol qui s'incruste parce qu'il croit qu'on va lui payer à dîner, peut-être. Hein. Bref, avant Lille et le stade Pierre-Mauroy où les Lillois n'ont encore jamais gagné en C1, ces mots, cette stat, rappelée ce matin, décidément on soigne Naïm, rappelée ce matin dans les colonnes de l'équipe,
ce que je vois.
Par Vincent Duluc, mais en même temps, ça claque. De Lille, on n'attendra pas grand-chose, dit-il, écrit-il, ce qui est toujours le meilleur moyen de ne pas être déçu. Alors que depuis 2017, hormis le PSG et Lyon, les autres clubs français, dans cette Ligue des Champions, ont pris 8 points sur 90 possible, c'est-à-dire en 30 matchs.
Enfin, sauf que
ça mérite d'être rappelé quand même.
Oui, enfin, si Lille gagne, il va faire un édito en disant exactement l'inverse.
Ouais. Bon. On verra, on fera les comptes à la fin pour voir si vraiment. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Olivier, bonsoir messieurs.
Salut.
De Lille, donc, vous attendez un grand match, hein, quand on vient de toute façon assister à un match de Ligue des Champions, non pas forcément de Lille, un grand match entre le LOSC et Wolfsburg, n'est-ce pas Eric?
Moi, j'ai aucune idée de ce que peut donner ce match, à vrai dire. Je crois qu'on n'a pas forcément beaucoup de repères, surtout avec cette équipe lilloise en ce moment, ce qu'elle peut donner. Est-ce qu'elle va enfin se réveiller après avoir peut-être trop fêté son titre de champion? C'est vrai que gagner le championnat, on est à la barbe du Paris Saint-Germain, c'est pas rien. Est-ce que les joueurs se sont un peu emballés cet été? Ils sont revenus en pensant que ce serait trop facile et on a vu ce que ça a donné. Une seule victoire en 5 matchs, 11 buts encaissés, une défaite récente à Lorient. Et bon, peut-être que maintenant, ils vont se dire, allez, on mouille vraiment le maillot, on s'y met et on retrouve nos vertus de l'an passé. Dans auquel cas, peut-être, on peut avoir effectivement une belle équipe de Lille. Est-ce que ça sera suffisant pour avoir un grand match? Oui, sans doute, parce que Lille peut être une équipe spectaculaire, de même que l'équipe de Wolfsburg. Après, concernant le résultat, c'est encore autre chose. Vous évoquiez les statistiques récentes. On a vu la campagne de Lille il y a 2 ans en Ligue des Champions. Des beaux matchs, mais un seul point pris à l'arrivée. Donc, une élimination assez piteuse. Donc, on attend de voir. On espère quand même une bonne surprise ce soir.
Oui, on a l'impression, je vous pose la question à vous, on fera un tour de table ensuite, que on a changé d'entraîneur, surtout aussi à Lille. Hein, Fabien Galthié est arrivé à Nice, où ça a l'air de pas mal marcher pour le moment en tout cas. Jocelyn Gourvennec, il peine à trouver la clé hein, pour le moment, Eric.
Faut pas l'accabler tout de suite, hein, évidemment, mais bon, le chauffeur de taxi en arrivant, je lui ai dit, qu'est-ce qui a changé à Lille? Il me dit, l'entraîneur. Voilà, donc évidemment c'est facile, c'est les raccourcis. Hein. Avec Galtier ça marchait, puis lui il arrive. Oui, non,
pour un taxi, c'est bien de connaître des raccourcis, c'est bien.
Voilà, oui, c'est un petit peu perdu en arrivant à l'hôtel tout à l'heure.
Votre voyage a été mouvementé entre le colis piégé Gare du Nord et le taxi qui se perd.
Qu'est-ce qui va se passer?
On va avoir un bon vieux 0-0.
Je sais pas.
Allez-y, a pas de loup, Eric. Hein.
Donc, c'était quoi la question du coup? J'ai oublié.
C'était Jocelyn Gourvennec.
Gourvennec, ce brave Gourvennec. C'est vrai qu'il a gagné une Coupe de France avec Guingamp il y a quelques années. Bon, après, aussi, Galtier, jusque-là, qu'est-ce qu'il avait gagné? Une Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne. Faut lui laisser sa chance. Il a l'expérience de la Ligue des Champions. Il l'a joué il y a 25 ans. Bon, ça date un petit peu. Avec Nantes. Il faut laisser la chance aux gens, voir un petit peu, peut-être il y a peut-être une nouvelle méthode, un nouveau discours, comme je vous dis, il fallait peut-être digérer le titre de l'an passé, de la saison passée. Attendons de voir avant de, évidemment, de l'accuser, de dire c'est de sa faute et que cette équipe de Lille, sans Galtier, ne sera capable de rien cette année.
On n'en est pas là à l'accuser. C'est on dit pas, juste que non, pour l'instant, il n'a pas trouvé la clé, voilà. Mais c'est quand même aussi compliqué d'arriver après Christophe Galtier.
Le problème, c'est ça, c'est que quand tu passes derrière un mec qui a fait champion de France, la seule chose que tu peux espérer, c'est faire aussi bien. Mais le mec est premier, c'est-à-dire que même si tu fais deuxième, déjà, c'est moins bien. Donc premièrement, deuxièmement,
ce que tu peux espérer, c'est faire une meilleure campagne européenne.
Gourvennec, le truc, c'est que Gourvennec, il a plus été choisi parce qu'il est un peu plus malléable pour les temps que pour son projet sportif, que pour ce qu'il est capable de mettre en place. C'est vrai qu'il a gagné une Coupe de France avec Guingamp et à l'époque, on fondait beaucoup d'espoir sur un mec comme ça. Mais depuis, son passage à Bordeaux est mitigé. S'il a pas retrouvé de bonne touche depuis, ça veut quand même dire quelque chose. Et c'est la première chose qu'il a dit quand il a été nommé à Lille. Il a été surpris, parce qu'il s'y attendait pas. Et je crois pas que ce soit un premier choix de base, en tout cas sur des critères sportifs. Quand tu sors de Galtier, tu te penches pas sur Gourvennec tout de suite. Donc c'est vrai que le choix de Gourvennec peut interroger. Mais après, comme tous les entraîneurs, il fait avec ce qu'il a à disposition. Et ce qu'il a à disposition, bah, c'est moins bien que l'année dernière. C'est moins bien qu'il y a deux ans. Si vous prenez des mecs comme Ikoné Bamba, bah c'est moins bien. Yazici qui était plutôt pas mal sur la fin de saison l'année dernière, bah là c'est quand même moins bien. La défense, on la reconnaît pas. Alors peut-être que le fait que Fonte ait été on est un peu traîné sur sa prolongation, peut-être que ça joue. Celik qui était affreux comme tout à l'Euro, bah il est en train de perdre sa place. Et finalement tous, en plus il a des absents, Renato Sanchez joue pas, Bamba est pas là. Donc cette équipe qui finalement faisait je vais pas dire rêver, mais qui en tout cas impressionnait dans tous les secteurs de jeu, bah elle impressionne beaucoup moins. Et ça, c'est pas une histoire de Gourvennec ou de pas Gourvennec, c'est que les joueurs sont quand même nettement moins bons. Peut-être qu'il y a un effet Galtier qui est capable de transcender des types, peut-être que Gourvennec transcende moins, peut-être que les mecs, bah maintenant qu'ils sont champions, ils ont peut-être moins la dalle, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui voulaient partir et qui sont pas partis, on sait pas ce qui se passe en interne. Mais il y a quand même un constat qui est au-delà de Gourvennec, il y a un constat à faire, c'est que l'équipe est moins performante.
Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces mecs qui ont moins la dalle?
Il veut se battre au lieu de...
Non, mais c'est une évidence. Même si Christophe Galtier était resté, je pense qu'il aurait souffert aussi, parce que les joueurs ont été au bout pour acquérir ce titre. Il a été très difficile à obtenir. Il y a eu une maladresse. Il a fait une très grosse maladresse à Olivier Létang récemment dans une interview, je crois que c'était à La Voix du Nord.
C'est le directeur du club. Hein.
Et le président même.
Le président même, oui.
Et il a fait une grosse maladresse, mais qui est révélatrice, qui est tout à fait vrai. Il dit l'équipe a surperformé l'an dernier, ce qui est tout à fait vrai. Alors c'est pas bien, c'est une maladresse parce que c'est pas bien de le dire. Et du coup les joueurs l'ont très mal pris, comme ils ont mal pris que les primes soient pas payées, etc. Enfin il y a un certain nombre de choses qu'ils ont mal pris. Mais en même temps c'est une vérité absolue. Et on voit bien que si tout d'un coup il y a un peu de relâchement. Moi j'étais à Lorient, j'étais frappé par le comportement de quelques joueurs. Où on sent bien que bon tiens ah bah tiens je vais au pressing j'ai raté mon pressing je suis désolé hein, débrouillez-vous derrière. J'ai vu un milieu de terrain mais submergé par le milieu de terrain de Lorient, ce qui est un peu surprenant, on peut le dire, je pense qu'on peut le dire un peu.
Oui.
Voilà. Et donc c'est quand j'ai vu des scènes où on se dit bah oui bah là il y a un peu moins d'effort, hein, là un petit peu moins de ceci, là un petit peu moins de cela. À l'arrivée quand en plus vous avez perdu des joueurs parce qu'il y en a un certain nombre qui sont partis quand même et notamment le gardien de but qui a été absolument essentiel l'an dernier.
Soumaré
pour la deuxième partie de saison essentiel, Maignan essentiel sur les 38 matchs. Bah évidemment ça fait une différence, mais considérable. Considérable.
Un mot, David.
Oui, les supporters ont pas l'air d'être dupes parce que je crois qu'ils n'ont pas envie de faire l'effort eux non plus d'aller trop à Villeneuve-d'Ascq ce soir. Hein, il y aura des absents. Hein.
Oui, c'était ma dernière question, Eric, parce qu'il vient d'arriver. Il faut quand même le laisser respirer, ce garçon. Le stade ne sera pas plein. Si vous avez des amis à inviter, c'est le moment. 19 000 places à vendre encore hier, disait-on. Et pourtant, certaines étaient à 20 euros. Donc, alors ça va être c'est un vaste débat. On en a parlé avant l'émission.
Ils ont mis les places à 20 euros parce qu'il restait beaucoup de places, en fait. C'est un peu différent.
Et l'histoire ne dit pas si elles sont parties.
Je sais pas. Là, c'est Eric qui va nous dire. Peut-être.
Si le stade sera plein, on verra bien. Mais enfin, bon, je sais pas.
C'est désolant quand même pour un retour en Ligue des Champions. Ils sont champions. Et de se dire que 20 000 places, c'est un tiers du stade quand même. Si je ne m'abuse, c'est 60 000 places, Pierre-Montroy.
Ouais, il fait 50 000.
Donc c'est quand même beaucoup.
Dans La Voix du Nord, ils parlent de 15 000 qui n'ont pas encore trouvé preneur. Après, on va voir effectivement combien il y aura de sièges vides ce soir. Après, on est dans une époque.
Juste une parenthèse, Eric, c'est que ils sont last weekend, il y a le derby de Lens et que les gens, s'ils ont un petit peu de pognon à mettre pour aller voir un match de foot, ils vont peut-être plus aller sur le derby qui parle beaucoup plus que sur un match contre Wolfsburg.
Je sais pas. Après, je me dis, est-ce que maintenant on achète les billets à l'avance avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, dernières années, enfin dans les habitudes, je sais pas si on achète maintenant les tickets. Après, peut-être que des hordes de supporters vont arriver ce soir et acheter leurs billets à 20 € et finalement remplir totalement le stade. C'est vrai que ça serait dommage de se dire bon. ils ont été champions, ils ont la Ligue des Champions à la maison et ils se déplacent pas là. Franchement,
ça n'arriverait pas en Allemagne, tiens par exemple, David, ça non.
Il y a aussi des supporters rebelles, Olivier, ça peut exister. En tout cas, il y aurait besoin de hordes de supporters lillois contre les loups, puisque c'est comme ça qu'on surnomme Wolfsburg, hein, Olivier. J'essaie de me mettre à la hauteur des jeux de mots, mais j'ai du mal.
C'est intéressant, c'est parce que finalement, t'as pas de grosses équipes. C'est des belles équipes de foot, Séville et Wolfsburg. Mais tout à l'heure, on parlait de Bayern-Barça, t'as pas une grosse affiche.
Que les Lillois ne soient pas ce soir affamés sur le terrain, j'y crois pas, ça, moi. On a une jurisprudence qui date de 96 avec Bordeaux qui était quasiment relégué, qui va en finale de Ligue de l'UEFA. On peut aussi imaginer que les Lillois
tu te rappelles de l'effectif. Est-ce que tu te rappelles de l'effectif de 96?
Oui, il y avait Lizarazu, Duga et Zidane.
Hein? Mais alors du gars, on s'en fout, mais Lizarazu, c'était pas mal quand même.
On préfère quand même pour la Ligue des Champions. On parle beaucoup de football, de trop de football peut-être, du football qui pourrait tuer le football. Voilà, on a l'exemple d'un match de Ligue des Champions en France.
Oui, mais Olivier,
où il y a un tiers du stade qui.
Olivier, il faut être d'abord. La place généralement elle est vendue dans un pack. Peut-être que le pack est pas accessible à tout le monde. Faut quand même dire la vérité. Tu viens de faire la rentrée des classes. Ça coûte un peu de pognon. Les gens dans le Nord sont pas très riches. T'as le derby de Lens ce week-end. Ceux qui ont de l'argent pour aller voir un match de foot, ils vont aller voir le derby plus qu'un match contre Wolfsburg. Ça c'est certain. Et que le fait que tu n'aies pas une grosse affiche, moi je te mets mon billet que avec les mêmes résultats, les mêmes doutes autour de Gourvennec, de machin, de ceci, si c'est Lille-Barça, Lille-Bayern ou Lille-Real, t'as 15 000 mecs de plus. C'est Wolfsburg. Bah,
c'est ça qui est désespérant.
C'est pas tellement
ça
intéressant.
Veut dire que les gens viennent pas pour voir le LOS, qu'ils viennent voir pour un éventuel adversaire prestigieux.
Je partage ce point de vue.
Ils veulent la Ligue des Champions pour voir les autres.
Je vais te dire un truc, t'as beaucoup de supporters de Lille aujourd'hui qui ont peur d'une chose, c'est que la première partie de saison flingue les résultats et qui se retrouvent à jouer le maintien sur la deuxième. Et t'en as beaucoup qui voudraient que l'équipe se fasse sortir.
Pourquoi se qualifier pour une Coupe d'Europe si c'est pour ne pas la jouer ou pour avoir peur ou pas?
Mais ça c'est un débat qui concerne pas Lille.
Toute la saison, les supporters espèrent qu'ils vont être en Ligue des Champions et le moment où ils sont en Ligue des Champions, ils viennent pas?
Mais les dirigeants le font aussi. Combien t'as eu de dirigeants qui voulaient se qualifier pour la Coupe d'Europe et puis qui trouvaient que la Coupe UEFA le jeudi soir c'était une punition parce qu'il fallait jouer le dimanche à 13h à Nancy, hashtag Jean-Louis Trio.
C'est très, très français. Eric, nous, ce qu'on veut, c'est que vous y alliez au stade, finalement. C'est ça le plus important.
Loin, donc, a priori,
t'as payé ta
prévu.
Place
moi, j'ai la chance que je sois invité.
Merci, Eric. On va vous laisser souffler quand même, parce que dans 2h30, on vous retrouve à l'antenne, bien
avec
sûr.
Plaisir.
On l'a dit avec Antoine Grenier, Cédric De Oliveira, notamment. Bon match, bon avant-match, surtout, et on vous souhaite le stade le plus plein possible pour le plus beau match possible. Finalement, ce qu'on veut, c'est ça.
Ça serait bien, ouais, il débute.
Allez, à plus tard, Eric. Merci beaucoup.
Bonne soirée, merci.
On écoute le défenseur Maxence Lacroix, tiens, qui veut lui tout donner hein, maintenant. Lui, écoutez ce son, ça dit bien quand même le travail fait l'an passé pour être là aujourd'hui. Et on espère pour lui qu'il sera entendu et soutenu.
On a travaillé très dur l'année dernière pour se qualifier pour la Champions League. Donc maintenant qu'on y est, voilà, que l'on ait Séville, Salzbourg, le PSG, le Bayern ou autre. Il faut jouer à fond et il faut jouer ces matchs pour les gagner parce que ça a été difficile et qu'on mérite cette place et on veut le prouver à l'échelle européenne.
Oui, on lui souhaite vraiment d'avoir un stade plein, Maxence Lacroix. Moi, je suis désolé, ça me fait vraiment quelque chose de
non,
me dire
que... Non,
mais
même à 30 000, il y aura de l'ambiance. Faut oui. pas non plus se désespérer.
Attend, voilà. C'est la Ligue des Champions, on en fait des
oui,
caisses.
Oui, non, c'est navrant.
Alors, parlons de Wolfsburg.
Et j'espère que Lille va faire mentir son public et montrer que, évidemment, que c'est, ils
Après,
sont capables de faire un bon match.
Différemment, Philippe, on peut dire que Grimont-Préjoris aurait peut-être été plein.
Ouais, mais enfin, il y avait moins de monde.
Oui, évidemment, si t'as un stade de 15 000, t'as plus de chances de le remplir, c'est vrai.
Et si tu fais jouer à Simovic, t'auras des buts, quoi, tu vois, on peut partir aussi là-dessus.
Pour Salzbourg, je sais, mais pour Wolfsburg, Wolfsburg ou Wolfsburg?
En français, Wolfsburg. Pareil, hein. Wolfsburg,
on est d'accord.
En français, Wolfsburg.
Voilà, bon, bah, alors donc, on se le dise.
Mais Wolfsburg, c'est pas une faute, puisque c'est la prononciation allemande.
Oui, aussi.
Donc, ouais. C'est pas gênant.
En allemand, d'accord. On prononce le G, effectivement.
Ok, donc c'est une table de Normands, ici. 4 matchs, 4 victoires en Bundesliga. 6 buts marqués, 1 encaissé. C'est l'équipe qui est en tête, donc, de cette Bundesliga. David, c'est quoi? C'est le tube de l'été, ou il y a un effectif, il y a une capacité à être dangereux?
Ouais, il y a quelques éléments forts à retenir. L'entraîneur a changé. Oliver Glasner est parti vers un autre club de Bundesliga. Il a été remplacé par Marc Van Bommel, et Wolfsburg a déjà connu sa petite crise, puisque au premier tour de la Coupe, il y a quelques semaines, Van Bommel, en prolongation d'un match contre une obscure équipe régionale, fait entrer un sixième remplaçant, et ça n'est pas autorisé. Il a pris toute la responsabilité sur ses épaules. Je crois que c'était plutôt bien joué de sa part, parce que ça a étouffé un petit peu cette crise. Personne d'autre n'a été accusé, alors qu'on aurait pu éventuellement accuser des adjoints, qu'on aurait pu aussi questionner les arbitres, les assistants, etc. C'est Van Bommel qui a dit « j'assume ». Wolfsburg est donc sorti piteusement de la coupe, mais du coup, la crise est passée, et en championnat, il y a une continuité, Olivier, malgré le changement d'entraîneur. Continuité parce que on a gardé les mêmes ingrédients, c'est-à-dire une équipe extrêmement robuste, très collective, très athlétique, avec finalement assez peu de changements. Un très bon gardien, un très très grand gardien dans les buts. Un avant-centre à l'ancienne, le néerlandais Weghorst, en attaque. Et autour, beaucoup d'efforts de la part des coéquipiers. Et Maxence Lacroix est l'un des meilleurs dans cette équipe. Alors, c'est très cohérent, très collectif, ça sera très dur de les bouger.
Lui, c'est vraiment la grosse révélation depuis un an et demi. Maxence Lacroix, gamin, 20 ans, vient de Sochaux, qui s'est imposé, mais je vais pas dire facilement, mais presque trop facilement dans cette équipe. C'est monstrueux ce qu'il est capable de faire dans l'axe. D'ailleurs, on parle beaucoup du Pamecano, hein, qui a été transféré au Bayern. Je pense que lui, dans pas longtemps, il va y aller aussi.
Il est à l'aise, en effet.
Connaissant la politique du Bayern. Et puis, t'as quand même des super joueurs de foot. Maximilian Arnold, c'est un très très bon joueur de foot.
Milieu offensif.
C'est un très très bon joueur de foot. Et puis, t'as Roussillon, côté gauche, qu'on avait à Montpellier, qui est devenu un espèce de latéral moderne extrêmement performant. Et c'est une équipe, t'as pas de big star, hein, par rapport à Dortmund, par rapport à, même, tu prends Mönchengladbach, Thuram, il a plus d'aura que, par exemple, n'importe la Weghorst. Mais c'est une équipe qui est collective, qui est cohérente, qui travaille bien. Ils ont quand même tapé Leipzig sur le début de saison. C'est pas, même si Leipzig fait pas un gros début de saison, c'est quand même pas mal de les taper. Donc c'est un vrai adversaire, c'est un vrai client.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un client très dangereux pour Lille, dans un groupe que l'on peut penser ouvert. Lille, Salzbourg, Séville, Wolfsburg, bien sûr. Ça veut dire que si vous perdez dès ce soir,
c'est essentiel pour Lille. Bon, après, ça sera pas rédhibitoire.
C'est quand même déjà un match très important.
Bah, c'est clair. De toute façon, pour une équipe qui est pas habituée à faire des bons parcours, parce que ça n'a pas été le cas de Lille sur ces dernières saisons de Ligue des Champions, chaque participation a été pauvre. La dernière fois, c'était un point. Je crois que la précédente, c'était 3. Donc, on peut dire que c'était des parcours très faibles. Et on sait très bien que pour une équipe comme ça, si elle perd le premier match et qu'elle va en déplacement derrière et qu'elle perd ou qu'elle fait un nul, on se retrouve tout de suite avec la tête sous l'eau, avec un calendrier où on se dit bon, on va pas s'en sortir, et finalement on se décourage. C'est un peu ce qui s'était passé,
sur
malheureusement.
Un groupe comme ça, si tu fais pas 3 sur 3 domicile, même jouer Salzbourg, c'est difficile.
Allez, il faut qu'on enchaîne. Alors, de bon augure ou pas, les U19 Lillois ont gagné cet après-midi 2-0, et on souhaite à leurs aînés ce soir de chanter ça. Non. Allez, on enchaîne avec le tenant du titre pour voir s'il est prêt, lui. It is Chelsea blue. That is the colour. For just the second time in their history, they are champions of Europe. And Thomas Tuchel, who halfway through the season waltzed down the King's Road, has led them to Kings of Europe. Chelsea, les Blues de Thomas Tuchel, vainqueur de City en mai, qui semble tout aussi fort, voire plus, hein, avec l'arrivée de Romelu Lukaku, 115 millions d'euros et 3 buts en 3 matchs déjà. Chelsea qui accueille le Zénith Saint-Pétersbourg, en tête, celui du championnat russe, 5 victoires et 2 nuls. C'est sans danger?
Il y a un gros écart de valeur. On sait bien que malheureusement dans cette Ligue des Champions, il y a quelques clubs qui sont très au-dessus du lot, qui sur 6 matchs ne court quasiment aucun risque, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Ça peut arriver. C'est arrivé à City, s'est fait surprendre par Lyon ou d'autres clubs parfois, une fois. Bon, après, sur 6 matchs, il n'y aura pas de débat. Les Chelsea, tous les clubs anglais, tout ça seront au rendez-vous. Hein. Vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup d'incertitudes. Peut-être Liverpool dans un groupe un peu plus difficile, mais bon, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'incertitudes.
Il y a deux points forts en dehors du milieu. Il y a Lukaku qui est arrivé, qui est en pleine forme, et il y a Edouard Mendy qui est sur sa constante, le portier sénégalais qui enchaîne les clean sheets,
ils ont un super coach, Tourelle, quel travail formidable il fait. Tu sais, le truc après avec Chelsea, c'est qu'ils jouent Tottenham ce week-end. Donc, où est-ce qu'on met le curseur? Quel est le match le plus important? Est-ce qu'on part du principe est-ce que c'est Tottenham? Non,
Tottenham qui vient de prendre 3-0 à Crystal Palace. Hein.
On n'est pas en France.
Oui, hein. C'est sûr, mais.
Ils vont faire deux matchs dans la semaine.
Oui, mais ils peuvent faire deux matchs. Mais après, est-ce qu'il va faire tourner? Est-ce qu'il va ménager un peu? T'es quand même une période de l'année où t'as des mecs qui ont déjà beaucoup joué, mine de rien. Donc, est-ce qu'il fait un peu tourner en se disant, quand bien même ça serait Zénith, on prend au sérieux, j'essaye un peu de faire souplé parce que derrière j'aurai plus de manœuvres pour machin, ou est-ce que je mets tout sur Zénith et puis on verra Tottenham. Je sais pas après ce que veut faire Thomas Tuchel, mais sur ce que je vois depuis le début de saison, sur le nul qu'ils ont été chercher à Liverpool, sur ce qui a fait le sel de la victoire de Chelsea l'année dernière, évidemment que le Zénith c'est très en dessous, surtout qu'en plus comme il n'y a plus vraiment de club à Moscou, le Zénith finalement il est devenu un peu tout seul en Russie, donc c'est pas sur un match contre le Zénith que tu juges le vrai niveau, même si ça serait pas Chelsea d'ailleurs, ça serait notre équipe, j'aurais la même réflexion, tu vois, championnat russe c'est plus vraiment dire grand chose.
Bon, Olivier, même si on enlève des titulaires et si Tuchel faisait ce que Naïm propose, on pourrait se retrouver avec, parce que dans le meilleur 11 de Chelsea, vous avez pas Saul Niguez, vous avez pas Loftus-Cheek, vous avez pas Hudson-Odoi, vous avez pas Ziyech, vous avez pas Werner. Il a moyen de faire carburer quand même une équipe 1B, même s'il souhaitait. Et si le résultat était de 1-0 ce soir, ça choquerait personne.
Chelsea en forme et en confiance, on est tous d'accord, et qui possède un net avantage sur le Zénith a priori. Tout le contraire, en somme, de la Juventus de Turin, qui semble ne pas se remettre du départ de Cristiano Ronaldo. Un point en 3 matchs, déjà 8 de retard sur le trio de tête.
Je croyais que c'était lui le problème.
C'est pas lui, déjà 8 sur le trio de tête.
Bah alors l'équipe.
On écoute. Mais arrêtez avec l'équipe.
On va avoir des problèmes.
Nous, j'aime bien. On écoute l'entraîneur Massimiliano Allegri, qui estime que tout le monde est responsable.
Nous sommes tous responsables des mauvais résultats actuels. Et dans ces moments-là, nous devons faire preuve d'un sens des responsabilités encore plus grand. Et surtout en Ligue des Champions. Il faut nous améliorer dans beaucoup de secteurs, être plus intelligent et évidemment mieux gérer nos rencontres.
La gestion des moments de la partie.
Tous responsables, même l'équipe, début de saison raté de la Juve. La Juve à Malmö, hein, idéal ou pas pour se remettre dans le sens de la marche. Malmö, on rappelle, 21 titres de champion en Suède. Une finale de ce qu'on appelait la Coupe des clubs champions.
À une autre époque.
Ouais. Que les moins de 30 ans, reconnu 40,
50.
C'était en 78-79. Bref, est-ce que ce match est idéal pour aider la Juve à se recadrer?
Oui, je pense, oui. Ils ont besoin d'avoir un adversaire pas trop fort, parce qu'ils démarrent la saison très faiblement. Ils récupèrent quand même pas mal de joueurs, De Ligt, Dybala, Rabiot, etc.,
qui vont
faire du bien, parce qu'ils avaient une équipe, une très très pauvre équipe au Napoli. Eux aussi sont une des grandes victimes de la crise financière. Ils se sont allégés, ils se sont débarrassés de Cristiano Ronaldo, vous vous rendez compte? Et je pense pas que c'était de gaieté de cœur, c'est simplement que les finances sont telles que c'était une économie importante. Ils s'en sont débarrassés pour une modique somme, parce que voilà, voilà où on en est dans le football européen aujourd'hui. Quand on n'est plus dans les six clubs riches, et ben quand on est seulement dixième, on est rien du tout, on n'a pas d'argent.
Bah disons que sur la Ligue des Champions, sur la phase de poule, comme il faut vite prendre des points pour être sûr de se qualifier, il n'y a que le résultat qui compte. Ce soir, on va pas demander de bien jouer à la Juve, même si ça serait le minimum face à Malmö. Oui, on va leur demander de gagner. Tu gagnes 1-0 salement à l'italienne, comme on disait il y a quelques années. Ça sera le béaba, et puis tu vas acheter la paix sociale pendant quelques jours, et puis voilà, ça va permettre un peu à Allegri de souffler. Mais c'est vrai que si on en est au mois de septembre à se dire est-ce que la Juve va gagner face à Malmö, c'est pour vous dire le niveau d'inquiétude quand même qui entoure cette équipe.
Ah ils ont fait des matchs d'une très grande faiblesse. Très grande faiblesse.
Naples avait 70% de possession de balle. Naples. Ouais.
Allez, on enchaîne.
Ils n'avaient pas d'équipe.
Terrible.
Et on clôt, bien sûr, avec le choc de ce soir. Le Barça, plus que jamais orphelin de Messi, reçoit le Bayern, éternellement prétendant au titre. Un titre qu'il a acquis il y a finalement un peu plus d'un an, en 2020. Le Barça, où Depay est le leader, où on s'inquiète pour Braithwaite blessé. Les temps ont quand même bien changé. Pardon, Réfé.
C'est pas un mauvais joueur.
On se souvient du... Ouais, il est passé par Toulouse. On se souvient du 8-2 l'été 2020, c'était il y a à peine plus d'un an. Alors, je vous propose d'écouter Julian Nagelsmann, hein, qui est arrivé, lui, au Bayern. Voilà, tiens, une arrivée importante. Oui. On l'écoute parler notamment de ce Barça.
Je pense qu'ils sont complètement différents, c'est le point décisif. Ils jouent différemment. Bien sûr, Lionel Messi est un joueur qui a attiré beaucoup de ballons. S'il est dans votre équipe, vous essayez toujours de le chercher, lui et ses solutions créatives. Maintenant, la responsabilité se répartit sur différentes épaules. Le Barça a un mélange très intéressant entre de très jeunes joueurs et puis Frankie de Jong qui a énormément progressé. C'est toujours une équipe qui a des chances de remporter le titre. Si vous venez au stade et dans le bus, il est écrit Bayern Munich ou Barcelone, ça a toujours une certaine signification pour l'adversaire. Ils ont certes des soucis sur le plan économique, mais si j'évalue juste en termes sportifs, c'est un très gros challenger.
Donc le Barça moyen, qu'un cas, le Bayern qui n'a pas tant changé, toujours une machine. Est-ce que c'est le bon moment pour cette affiche? On n'a pas trop le choix en même temps.
Probablement, la presse allemande a repris. Je parle du côté allemand là, vous m'aurez compris. Quand je dis probablement que c'est un bon moment, la presse allemande a repris ce matin les récentes phases de poule pour le Bayern qui s'est toujours très très bien débrouillé du premier match. Mais avec des adversaires quand même un peu moins forts, voire beaucoup moins forts. Je suis pas en train de dire que le Bayern n'est pas favori, y compris à Barcelone. D'ailleurs, les cotes sont révélatrices.
Il y a quelques années, ils avaient mis 3-0 au PSG au même moment.
Oui. Non, mais bon, oui. Bon, ok.
Pas si longtemps que ça.
Ok, le PSG est favori, je retiens.
Ah non, je dis pas ça, hein, mais.
Non, il y a quand même quelques changements, Olivier, que l'entraîneur a eu besoin de digérer, l'équipe aussi. Il y a des renforts. On parlait de Sabitzer au milieu de terrain qui peut soulager, par exemple, Kimmich et Goretzka. Le Bayern est probablement en avance par rapport au Barça. Tout le monde se délecte du 8-2 dont vous parliez à l'instant dans la presse et dans les supporters, mais il y a deux façons de voir aussi. On peut dire ce 8-2 c'était super, on est plus fort, on est confiant, mais on peut dire aussi on va pas forcément le répéter tous les 6 mois et on est donc un peu plus prudent.
Non, puis de toute façon pour le Barça, s'il y a une volée à prendre, vaut mieux la prendre maintenant avec 5 matchs derrière pour se refaire que la prendre à la 5e journée et commencer à faire des calculs d'apothicaire, est-ce qu'on peut se qualifier, faut compter sur qui, machin. Donc de toute façon, bon, c'est voilà, on sait que le Barça est une équipe qui depuis maintenant plus de 20 ans va devoir compter sur son collectif et pas sur un joueur extraordinaire, parce qu'avant Messi, il y avait Ronaldinho, je le rappelle. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Moi, je suis toujours très 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 dubitatif quand on dit ouais, mais il y a Pedri, ouais, mais il y a De Jong. Ouais, mais Pedri et De Jong, c'est deux gamins qui sont à 50 mètres du but adverse. Si c'est sur eux qu'on compte pour faire du Barça un champion d'Espagne ou un champion d'Europe ou un demi-finaliste, ça fait un peu léger, aussi talentueux soit-il. D'accord? Donc voilà, je souhaite au Barça et aux supporters du Barça qui vont venir après me voir sur Twitter me dire, t'as dit ça, c'est pas bien.
Oui, mais c'est
on leur souhaite d'aller le plus loin possible, mais enfin, c'est quand même pas une saison où on se dit ils vont aller très loin.
Un mot sur ce Barça-Bayern, Philippe?
Ça reste une belle affiche, ça reste un match sympa à voir, même si effectivement l'enjeu à ce stade de la compétition est assez limité. Barcelone, même s'ils perdent, aura largement le temps de se qualifier. C'est pas un des groupes les plus passionnants, mais l'affiche, voilà, elle reste prestigieuse.
Faut la respecter.
Voilà. Faut respecter, sachant que l'enjeu.
Le match va quand même avoir le mérite d'arbitrer un peu la polémique entre Coman et Laporta, parce que si jamais Coman réussit un coup en battant le Bayern, il va pouvoir calmer un petit peu Laporta. Si jamais, par contre, il prend une douille, l'autre, il va dire, ah, t'as fait des déclarations dans la place hollandaise, bah, attends, toi. Et
puis, l'autre, comme ça, on en reparlera demain.
Exactement.
Dans ce groupe, Dynamo de Kiev, Benfica, c'est l'autre match. Et on n'oublie pas non plus, ce soir, Villarreal, Atalanta, Bergame, c'est dans le groupe de, t'as un match qui va commencer bientôt, qui a commencé depuis 3 minutes d'ailleurs. Young Boys, Bern, Manchester United. Rendez-vous 19h TU pour la soirée spéciale sur RFI. Antoine Grenier, Cédric De Oliveira. Le petit Moniol et Eric Mamrut à Lille. Et puis nous, on reviendra bien sûr à 21h10, hein, temps universel, avec David et Patrick Julliard. Ça claque. On est déjà là, c'est pas l'entrée dans le studio, c'est dommage. C'est la polémique inutile ou stérile, ou pas, du moment, au Paris Saint-Germain. Faut bien qu'il y en ait une de temps en temps, ou tout le temps. Phil Collins chantait l'arrivée des équipes sur le terrain au parc depuis 1992. Marketing oblige, DJ Snake l'a remplacé, sans même le savoir, hein, il y a 8 jours. Je vous propose d'écouter. Ouais, je crois qu'on peut revenir parce que ça claque quand même nettement moins. Mais enfin bon, on n'est pas tout à fait de la même génération que ceux qui peuvent peut-être apprécier cette musique de DJ Snake.
Moi, je suis beaucoup plus jeune que vous et ça me plaît pas non plus. Hein.
Et alors lui, il est embêté. Hein, il le fait savoir depuis hier au sujet de cette polémique. J'ai fourni un son, dit-il, pour la vidéo de présentation de Messi. J'ai découvert, comme vous, les supporters, qu'on en a fait une musique d'intro pour l'entrée des joueurs, alors que ça ne s'y prête pas. Lui-même le dit. Il a bien raison. Ça prouve qu'il a quand même de l'oreille et aussi un peu. On est content d'être d'accord avec lui. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter. Et vous savez l'amour que j'ai pour nos couleurs. Allez, Paris. On le disait, donc c'est la politique. La politique, oui, c'est une politique aussi marketing. Oui. C'est la polémique inutile du moment.
Oui, en partie, parce que moi j'aimais bien Go West, par exemple, qui était le des Pet Shop Boys, qui était l'hymne d'avant au Parc des Princes.
Il n'y avait pas eu Michel Fugain, d'ailleurs, Philippe, par le passé.
Le grand Michel. Ah ben voilà, là on parle tout de suite.
On dirait que c'est le gène de marcher dans la boue, non?
Ça c'était le pêche.
Non mais ça aurait été bien pour le Parc des Princes.
Fugain, c'est le plus, elle descendait là-haut vers le midi.
C'est bien.
Michel Fugain qui a ouvert au Parc des Princes,
je crois bien.
Ah merde, ça explique certains résultats.
Michel Fugain était, en tout cas cette chanson, était à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques à Tokyo, mon petit bonhomme. Sachez que Fugain passe au Japon.
Si je peux revenir au football.
Marie Mathieu aussi, pareil.
Moi, donc Go West, j'aimais bien, et j'ai pas fait une manif quand ça a été changé. Je veux dire, je pense que c'est pas dramatique et ça n'est pas essentiel. Ce qui m'agace un petit peu dans tout ça, c'est qu'on s'aperçoit que finalement tous les objets de polémique sont chaque fois des choses qui ont rien à voir avec le foot. Ça a l'air de passionner tout le monde de savoir si les supporters du PSG sont passionnés sur le FPF, quand le fair play financier, sont passionnés sur les questions économiques, sur il faut vendre Mbappé, sur ceci. Ils se mêlent de plein de trucs. Et rien à voir avec le foot à chaque fois. Moi, je trouve que les supporters, c'est pas fait pour ça. Hein. C'est pas fait. Alors, pour les hymnes, je comprends très bien que le club qu'on soif de discuter avec les supporters pour savoir quel hymne ils voudraient, etc. Mais franchement, c'est pas un sujet fondamental. Quand le Barça, par exemple, a un hymne à lui, le Real a un hymne à lui, fait pour lui et qu'il
a
adopté.
Le Bayern a un hymne à lui.
Bon, je peux comprendre.
Les grands clubs, quoi,
je historique. Peux comprendre que ce soit un symbole fort. Je ne savais pas que Phil Collins habitait dans le 17e arrondissement. J'étais pas au courant, mais merci de me le dire.
Juste avant que vous repreniez la parole, Naïm, je sais pas si SoFoot a plus de grâce à vos yeux que l'équipe, mais je vous lis cet extrait du chapeau de SoFoot. Derrière ce choix qui peut sembler anecdotique, on est bien d'accord, aux yeux et aux oreilles des profanes, c'est un nouveau signe que le culte du marketing l'emporte sur le respect de l'histoire et de la mémoire collective des supporters. Et c'est ça plus que cela dit dans l'attitude des Qatariens dont on peut estimer c'est SoFoot qui écrit
Oui,
il n'est pas d'accord non plus avec SoFoot.
À la rigueur, mais quand le marketing sort des maillots qui n'ont rien à voir avec les couleurs du club, avec marqué Neymar, Messi, machin, et qu'ils en vendent des millions et que ça rapporte je sais pas combien, ils sont un petit peu moins choqués par le marketing dans les clubs. Philippe a raison de parler de l'hymne des clubs. Ça, quelque part, c'est pas ce qu'il y a de plus grave dans la culture d'un club. Même si c'est important, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le problème, c'est que, à Paris, ça intervient après beaucoup de choses. Ça intervient après la modélisation du logo, on l'a rendu un petit peu plus design.
Puis après,
on a changé le nom du camp des loges. Après, on va changer carrément l'endroit où on s'entraîne. Et puis après, on va changer les couleurs. Alors, le maillot numéro 2 et numéro 3, même si c'est que les numéros 2 et les numéros 3, on en a vu passer quelques-uns sur les dernières années, c'est à gerber. Donc, en fait, ça, plus ça, l'hymne aujourd'hui, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Et Phil Collins, globalement, on s'en fout au PSG. Ça a moins d'importance au PSG, je trouve, que Jump à Marseille.
Je pense que ce soit vrai dans tous les clubs.
Non mais ça a moins d'importance à Paris que Jump avant d'aller à Marseille si tu veux. Mais le problème c'est que ça intervient après tout un tas de petites réformes qui finalement effacent un peu la culture parigo-parisienne dans du club. Que la culture, excusez-moi, que la culture parisienne finalement. Et au final, on se dit, si on touche au logo, si on touche au camp des loges, si on touche au lieu où on s'entraîne, si on touche à l'hymne, si on touche au maillot, la prochaine fois, on va toucher à quoi? Au nom du club? Voilà. J'ai un peu peur. En fait, c'est l'escalade qui pose problème.
Est-ce qu'on n'est pas, une fois de plus, dans ce qu'on dit depuis l'arrivée des Qatariens, ce club de parvenus, de nouveaux riches, qui ne s'achètera jamais l'histoire qu'ont certains clubs dans le, pour, au sein desquels ce genre de polémique n'arriverait jamais?
Non, mais en fait, c'est généralisé. C'est pas lié. Je pense pas que ce soit plus lié à Paris qu'à Nantes. Je veux dire, si à Nantes, ils changent la chanson, les supporters vont... En fait, c'est un phénomène généralisé qui veut dire que les supporters, même ceux qui, honnêtement, il y a trois ans, ne savaient pas que le club existait, hein. Hein, parce qu'il y a oui, aussi parmi quelques
supporters. En présidentiel peut-être aussi.
Oui, aussi, mais il y a beaucoup de supporters qui s'estiment propriétaires du club. Parce que les propriétaires viennent de loin, les vrais propriétaires viennent de loin, les entraîneurs vont partir, les joueurs, ils font un passage, ils viennent pour l'argent, ils s'en iront après, etc. Tout ça, c'est des mercenaires. Et nous, on est les tenants du club. Donc nous, on veut être d'accord avec tel transfert, on veut être d'accord avec la musique, on veut être d'accord avec comment la façon de jouer, le système de jeu, etc. Je pense qu'il y a un moment où il y a des limites. Les limites, ça s'appelle la compétence. Et je trouve que les supporters, dont un certain nombre se parent de toute cette histoire du club qu'ils n'ont pas connue en général, parce qu'ils ont certains d'entre eux ont 25 ans et ont 3 ans d'historique dans les tribunes et avant ne s'intéressaient même pas au foot. Par moments, ça me gêne un peu, si vous voulez, que tout cela se part du club. Oui, mais ça, tous les autres, c'est des mercenaires, c'est moi.
Verrait-on cela? Verrait-on cela à Marseille? À Marseille, pour Van Halen, par exemple. Non. Verrait-on cela au Bayern? Est-ce que, je me souviens, quand on va à l'Allianz Arena, on a ce compte à rebours, ces battements de cœur, notamment, qui sont l'identité d'un début de match. Est-ce que tout d'un coup, on pourrait décider au Bayern de changer tout ça, sans demander l'avis?
Olivier, on navigue et on essaye de façonner les choses à la marge. C'est-à-dire qu'il y a des symboles forts. Le logo, par exemple, de la Bavière, vous allez pas, on n'imagine pas que ce logo-là, bleu et blanc, au cœur du rond qui symbolise le Bayern, ne change demain, ni dans 10 ans, ni jamais. L'hymne du club aussi, Stern des Süden, l'étoile du Sud.
C'est beau.
C'est beau, mais ça a été modernisé, avec plus ou moins de succès, il a été un peu réorchestré, retravaillé. On s'amuse un peu de cette pseudo-modernité, mais on garde quand même cette espèce de symbole. Si vous prenez le RB Leipzig aujourd'hui, qui a une dizaine d'années d'existence, il y a rien à Leipzig, il y a rien à quoi on puisse se raccrocher, rien du tout. Et donc les supporters sont moqués dans toute l'Allemagne pour différentes raisons. Voilà,
mais après, tous les clubs ont une histoire et les histoires ont un point de départ, David.
Non mais à Paris Saint-Germain, oui, quand vous retirez le berceau de Saint-Germain sur le logo, c'est un peu gênant, quoi.
Oui, ça d'accord, je suis entièrement d'accord sur le fait que toucher le logo ou changer, si demain tu fais du naming au Parc des Princes, oui, ça sera gênant. L'histoire de Phil Collins, c'est vrai que s'il rentre là-dessus depuis 91, c'était en 2021, ça fait 30 barreaux, t'as des mecs qui vont dans les tribunes, ils ont toujours connu que ça. Donc je peux comprendre que ça gêne, même si c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais le problème, c'est que je te le dis, ça intervient après tout un tas d'autres changements qui n'ont pas choqué. Ce qu'on dit, ouais, mais ils peuvent pas s'acheter l'histoire du club. Non, mais ils viennent de t'acheter Neymar et Messi, ferme ta gueule. Point final. Parce que c'est comme ça qu'ils achètent l'histoire du club, en fait.
C'est comme ça qu'ils parlent aussi dans les tribunes.
Excusez-moi, mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, les supporters qui critiquent les dirigeants, ou en l'occurrence le mec du marketing ou ceci, cela, sont les mêmes qui les adoubent quand ils font venir Messi.
Eh ben allez, moi je vous propose justement d'en écouter quelques-uns des hymnes pour voir si vous les connaissez ou les reconnaissez. On y va, monsieur Salerno.
L'Argentine.
Qui a dit l'Argentine?
L'Argentine, c'est River Plate.
Oui, ça c'est pour faire plaisir au réfé. Parce que tout à l'heure on a moqué le Barça, donc on revient.
Parce qu'il n'est pas fan du Boca, lui.
Allez, on y va.
Marseille, Van Halen, jump.
Allez, on enchaîne. Celui-là, c'est plus compliqué.
Oui,
le plus grand club d'Afrique subsaharienne, on peut dire ça? Oui, quand même, le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Allez, celui-là, c'est encore plus exotique.
Oh la vache.
Ouais, Laurent Salerno, quand on lui donne une mission, il va chercher loin. Le FC Goa. Allez, on va terminer avec celui-là.
En Inde?
Ouais.
Les courons, Bachelet.
Voilà.
La boum.
On avait encore Galatasaray, on avait encore l'Inter Miami, et puis on voulait terminer avec You Never Walk Alone, mais on va l'entendre toute la saison puisqu'ils iront loin. Allez, c'est terminé pour
Cologne, c'est au moins 10 clubs, alors c'est pas facile. De...
C'est vrai.
On se retrouve, n'oubliez pas, dans deux heures, la soirée.
Session Lab, un podcast musical.